102.1.
Les idées préconçues n'ont pas leur place ici. Jusqu'à midi, Sophie Durocher anime. Sophie sans compromis. Avec Catherine Bachan. À Boulevard 102.1.
Bonjour, c'est Sophie en pleine forme. J'espère que vous l'êtes aussi. On est ensemble jusqu'à midi. On va passer toute la matinée ensemble. Je vous souhaite un très, très bon début de semaine. Ma collègue, amie et complice Catherine est partie sur des, est en repos, est en vacances, elle a bien le droit aussi, et en lieu et place de Catherine, ce matin, je suis avec un gars, ça va être une dynamique complètement différente. Mathieu Marcotte, bonjour!
Une voix un peu plus dans les graves aujourd'hui, mais je vais tenter d'être aussi complice et acolyte que Catherine.
Oui, puis tu sais quoi, Mathieu, c'est pas la première fois qu'on anime ensemble. Rappelle-toi la première semaine où je suis arrivée. Le mardi puis le mercredi, on a passé deux très, très, très belles matinées ensemble. On s'est super bien entendus. Fait que on recommence ça ce matin.
Et voilà, en souhaitant qu'on tombe pas dans des sujets sur lesquels on est trop en désaccord, mais je pense que ça va bien se passer.
Mais non, mais c'est quoi, Mathieu?
Oui.
Même si on n'est pas d'accord.
Ah oui, c'est vrai.
Au contraire.
Ben oui, ça fait des bons shows.
Ben oui. J'aime bien mieux ça, en fait, à la rigueur. Parce que tu vois, avec Catherine, plein de choses sur lesquelles on est d'accord, plein de choses sur lesquelles on n'est pas en accord, ou alors on peut avoir certains points communs sur un sujet et pas s'y rendre de la même façon, disons. On est peut-être d'accord sur l'objectif, mais pas sur le chemin à prendre pour s'y rendre. Alors non, au contraire, ça fait des super bonnes discussions. Au contraire, moi j'adore ça.
Et on a beaucoup de... Il y a beaucoup d'éléments dans l'actualité à discuter aujourd'hui.
Tabarnouche. Alors, on va parler un peu plus tard dans l'émission, évidemment, des élections en France. On va parler de plein d'autres sujets. Mais ce matin, écoute, moi, je me lève le matin. Je me lève tôt. 6 heures. Ben, il y en a qui diront, c'est pas si tôt que ça, mais 6 heures, moi, je trouve ça tôt. Je lis les journaux, puis c'est un petit peu ce que je lis dans les journaux qui va déterminer mon humeur pour le reste de la journée. S'il y a des bonnes nouvelles ou, tu sais, s'il y a des trucs qui me stimulent intellectuellement, je vais être de bonne humeur pour le reste de la journée. Mais quand je suis enragée dès 6 heures le matin, ça regarde mal!
mais qu'est-ce qu'il y a dans l'actualité de si enrageant ce matin?
Écoute, la une du Journal de Québec. Après les routes et les écoles, des hôpitaux et des CHSLD en ruine. Des fois, j'ai l'impression de vivre dans une république de bananes, dans un pays du tiers-monde. Écoute, tu te souviens, le journal avait sorti, c'était Nicolas Saillant, je pense, Hugo, hein, tu peux peut-être me corriger, qui avait sorti l'histoire comme quoi, au Québec, la moitié, 50% des routes étaient en mauvais ou très mauvais état. Et c'était des chiffres qui provenaient du ministère des Transports lui-même. Puis Laurent Lessard avait essayé après de dire « Non, c'est pas vrai, c'est exagéré. » Ben, je m'excuse, mon petit chéri, mais c'est parce que les chiffres viennent de ton ministère. C'était des chiffres qui étaient dans le budget de l'État haut. Alors déjà, on savait que les routes, c'était pas fort. Non, c'est ça, c'était bel et bien Nicolas Saillant. Donc, on savait ça. On sait aussi que, par exemple, à Montréal, le nouvel hôpital qui va ouvrir bientôt, il y a déjà de la moisissure. Il est même pas encore occupé. Il vient d'être livré. Il y a déjà de la moisissure. T'achètes une nouvelle maison, toi, il y a déjà de la moisissure dans la maison. C'est une maison neuve. Puis là, on apprend que dans les CHSLD et des hôpitaux, ils sont déjà en ruine. Il y en a plein. Le pourcentage de vétusté dépasse 100%. Ça te décourage pas, toi, Mathieu? Ça te met de bonne humeur quand tu lis ça le matin dans le journal.
Non, effectivement. Je croyais que c'était l'importance qu'on accordait au sport qui t'avait peut-être mis hors de toi aujourd'hui.
Oh,
mais,
non.
Mais il va y avoir tout un bilan tantôt, ça va être épouvantable. Mais effectivement, ce dossier-là, en fait, moi, ce qui me fâche, c'est qu'on en est presque rendu à s'attendre qu'il y ait de la moisissure dans les écoles. C'est même plus une surprise quand on trouve de la moisissure un peu partout. Là, ce qui est particulier, c'est qu'on est dans des nouveaux établissements. On sait que ceux dont l'entretien est un peu déficient, on se dit peut-être que c'est normal, mais en fait, non, il ne faut pas accepter ça comme un fait normal. Mais de l'avoir construit dans les derniers mois, même pas ouvert encore, et on a déjà de la moisissure, où est le problème? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est dans cet état-là, ici au Québec? Est-ce qu'on a des problèmes au niveau de la construction? Je pense que oui.
Oui, ben dans ce cas-là, c'était ça. Mais ça, c'était l'hôpital à Montréal. Mais là, des CHSLD, des centres jeunesse qui sont considérés en mauvais ou en très mauvais état, c'est assez décourageant. Mais je trouve ça intéressant que tu pensais qu'on allait parler de sport parce que, évidemment, la défaite du Canadien, ça a peiné beaucoup de gens. Mais tu vois, en fin de semaine, je voyais hier soir des gens qui commentaient La Voix. Parce que j'ai pas pu écouter La Voix hier soir, malheureusement, parce que c'est une émission que j'aime bien, puis je trouve ça amusant de suivre cette compétition-là. Et il y a quelqu'un qui faisait une remarque que je trouvais très intéressante. Il y a plein de scandales au Québec. Tu sais, l'état des routes, si les écoles, des politiciens corrompus, comme on a vu à la commission Charbonneau. Tu sais, il y a quand même une couple de choses qui vont mal au Québec, puis t'as l'impression que la population se soulève pas. Tu sais, la population trouve pas ça si scandaleux que ça, on s'habitue. Mais quand il y a un candidat à La Voix qui est écarté alors que le public l'aime, oh, je te dis là, les gens s'en vont sur les médias sociaux puis se mettent à critiquer, puis ça, c'est un scandale. Ben, si l'indignation que vous démontrez, parce qu'il y a un candidat à La Voix que vous aimez qui est éliminé, si cette indignation-là, vous l'utilisiez pour vous indigner contre les politiciens corrompus, le bordel informatique, l'argent dépensé n'importe comment. Peut-être que la société québécoise s'améliorerait. Cette colère-là que vous avez, que vous exprimez quand vous êtes pas content des résultats à La Voix, pourquoi vous l'utilisez pas dans d'autres sphères de la société? Tu comprends la question se pose?
J'avoue que la passion avec laquelle les gens commentent sur ce qui se passe avec le Canadien, les contre-performances, ça forge des gens. Les mauvaises décisions, ça forge des gens. Au niveau de La Voix, là, il y a un chanteur hier qui a fait une prestation métal
qui est totalement
différent des autres. Et là, ça forge certaines personnes parce que ça les heurte dans leurs habitudes. Il y en a d'autres qui le défendent avec passion, mais ça devient des débats passionnel et passionné sur les médias sociaux, sur Facebook. Et je me dis peut-être qu'on a, peut-être qu'on pourrait consacrer un peu de cette énergie-là à peut-être essayer de justement faire bouger les choses et de s'insurger devant des situations qui n'ont aucun bon sens. On le sait que les centres les CHSLD, les centres pour personnes âgées, on a parlé souvent du traitement qui est réservé à nos aînés, qui est épouvantable. Si en plus de ça, en plus du fait que les soins sont peut-être pas à point dans certains endroits, si en plus de ça, l'endroit dans lequel ils vivent, il est même pas sécuritaire, puis il peut être dangereux pour la santé, avec des gens qui sont vulnérables aussi au niveau santé, je pense que ça mériterait plus plus de passion et de colère que d'avoir un gars avec les cheveux longs qui crie à la voix. Ouais, qui fâche des gens.
Ben, t'as tout à fait raison, Mathieu. Ben, c'est sûr, t'as raison, tu vas dans le même sens que moi. C'est sûr que t'as raison. Mais tu vois, dans le texte, dans le Journal de Québec, ce qu'on apprend, c'est que dans la capitale nationale, donc ici à Québec, les bâtiments 1 et 2 de l'Hôtel Dieu de Lévis, la pire cote que tu peux avoir pour un bâtiment gouvernemental en termes de sécurité, d'entretien, de solidité, la pire cote. Puis ça, il y a personne qui est sur les médias sociaux qui est en train de hurler puis de déchirer sa chemise puis de grimper dans les rideaux. Mais quand il y a un métalleux à La Voix, là, vous allez sur les médias sociaux puis vous criez votre indignation. Hey, ça s'appelle avoir une indignation à deux vitesses, ça, les amis? Écoute, qu'est-ce qui est le plus scandaleux? Des personnes âgées qui sont dans leur couche, qui a plus de budget pour des couches d'incontinence, qui ont un bain une fois par semaine, puis qu'en plus leur CHSLD est en piteux état. C'est plus scandaleux ça, ou c'est plus scandaleux d'avoir un gars, comme tu dis, avec les cheveux longs qui hurle dans son micro à La Voix?
Mais ce qui m'avait fait rire quand la Voix et les séries c'était en même temps, la TVA avait décidé de changer, c'est son gros show du dimanche soir, puis il avait décidé de changer ça pour le lundi soir.
Ouais, mais je croyais que c'était une bonne décision.
Oui,
moi,
c'était une excellente décision au niveau de l'entreprise de pouvoir permettre aux gens de regarder les deux, mais c'est dans la justification qu'ils ont fait dans le communiqué, ils ont dit on va permettre aux Québécois de vivre leurs deux passions. Et moi ça m'a fait rire, parce que je me suis dit ah, OK. On peut résumer le peuple québécois à deux passions, c'est-à-dire le Canadien de Montréal et les émissions de chant du dimanche soir.
Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, moi, je trouvais que c'était, t'as tout à fait raison, je trouvais que c'était par contre une bonne décision, parce qu'écoute, on peut pas présumer que les gens qui regardent La Voix sont pas intéressés par le hockey, et on peut pas présumer le contraire non plus. Donc, non seulement la station elle-même se serait cannibalisée, mais en plus, le public aurait été placé devant un choix déchirant, parce que, tu sais, le hockey, t'as pas quelque chose que t'as envie de regarder en différé, t'as pas envie de l'enregistrer puis de le regarder après, alors que tout le monde sait c'est quoi le résultat du match. Et La Voix, c'était le premier direct de La Voix, donc il fallait que les gens votent en direct. C'était pas comme, tu sais, quand il y avait les auditions puis que tu pouvais l'enregistrer puis le regarder plus tard, c'était pas grave. Donc c'était vraiment deux émissions qu'il fallait absolument regarder en direct. Alors écoute, le peuple québécois était déchiré. Mais tout ça pour dire que moi, j'aime ça quand les gens s'indignent. Je suis la première à applaudir quand les gens sont insoumis et qu'ils sont sans compromis et qu'ils s'expriment et qu'ils ont les baguettes en l'air puis qu'ils dénoncent et tout ça. Je suis la première à encourager les gens à le faire, mais j'aimerais peut-être parfois que les gens soient plus sélectifs dans leur indignation et que leur indignation soit mieux placée, disons. Ce sera ma minute de morale de ma tante du Rocher de ce lundi. Écoute, il y a un autre sujet dont je voulais parler, mais on va y revenir un petit peu plus tard. C'est écoute, je vais quand même juste vous donner un petit aperçu. C'est des élus à la commission scolaire des navigateurs qui ont décidé de se partager entre eux un salaire. Il y a des collègues à eux qui ont démissionné, puis au lieu de retourner l'argent qui devait être versé à ces gens-là en salaire, ils se sont dit, ben, on va se partager la tarte. Hein, les amis sont partis, puis ont laissé la tarte sur la table. Au lieu de retourner la tarte au gouvernement québécois, ben, on va se partager la tarte. On va s'en reparler plus tard, parce que là, je suis juste trop pompée, faut que je me calme. Parce que les gens qui dépensent de l'argent public comme c'était de l'argent de Monopoly, là, ça me met de mauvaise humeur le lundi matin à 6 heures. Alors, il y a un autre dossier dont on va parler, Mathieu, qui concerne l'Université Laval et la faculté de théologie. Alors, la faculté de théologie et de sciences religieuses, normalement, est censée former des gens, engager des professeurs pour étudier la religion de façon objective et étudier le phénomène religieux, se pencher sur les différents phénomènes justement religieux, sauf que la faculté en arrache un peu et ils ont décidé de multiplier des chaires commanditées par des groupes religieux. C'est Le Devoir qui a sorti cette histoire-là la semaine dernière. Ils ont reçu 420 000 $ d'un groupe religieux. Et ça, les laïcs, ça les fait grimper dans les rideaux, sauter au plafond. Et justement, on a avec nous au téléphone Daniel Baril, qui est vice-président du Mouvement laïque québécois. Bonjour, Monsieur Baril.
Oui, bonjour, Madame Durocher.
Comment allez-vous?
Ça va très bien. Bon, c'est sûr que la nouvelle est de quoi nous étonner, là. Bon, on fait pas nécessairement sauter au plafond. Il y a des choses un peu renversantes là, dans cette initiative de la faculté de théologie.
D'accord. Parce que normalement, est-ce que j'ai raison quand j'ai dit que le rôle ou le mandat d'une faculté de théologie et de sciences religieuses à l'université, c'est d'observer le phénomène religieux, mais de l'observer de façon objective, alors que quand on a 420 000 $ dans les poches, on a le droit de se demander où est l'objectivité.
C'est-à-dire que vous avez raison en partie. Ce que vous présentez, là, bon, l'étude objective du phénomène religieux, ça relève du secteur sciences des religions de la faculté. Mais oui, la faculté, au départ, c'est une faculté canonique dont la mission est de développer la théologie catholique. La faculté de théologie de l'Université Laval a une charte canonique, donc elle relève de l'archevêché pour ce qui est de la nomination du doyen et de l'engagement des professeurs qui œuvrent dans le secteur théologie de la faculté. Ça, d'accord, à mon avis, là, c'est le premier problème. C'est-à-dire que c'est un anachronisme qui ne devrait plus exister dans une université financée à 80% par des fonds publics.
Mais oui, c'est pas très...
C'est parce que...
Mais il n'y a pas de saine distance, disons.
Pardon?
Il n'y a pas la saine distance à laquelle on s'attendrait normalement.
Ben exactement. Moi, je pense qu'il y a moyen dans une université d'étudier de façon scientifique le phénomène religieux. Alors, ça s'appelle de l'anthropologie de la religion, de la psychologie de la religion, de la sociologie de la religion. Moi-même, j'ai une formation en anthropologie de la religion. Mm-hmm. Mais la théologie comme telle, c'est le développement de la doctrine catholique, de la pensée doctrinaire catholique. Alors, c'est pas une approche scientifique du phénomène religieux. Quand l'Université Laval a rompu, en fait, est devenue université laïque dans les années 70, elle aurait dû, normalement, laisser tomber ce statut particulier pour la faculté de théologie et se consacrer à l'étude scientifique du phénomène religieux. Mais là, c'est pas ça.
Oui. Moi, je ne savais pas du tout que c'était...
Et on continue dans le même genre de dérive, là, avec cette chaire en études évangéliques, là.
OK. Alors, donnez-nous un petit peu plus de détails, parce que l'histoire, il faut rendre César ce qui appartient à César. C'est le Devoir, là. C'est Marco Belair Cirino du Devoir qui a sorti cette histoire-là. C'est 420 000 $ qui provient, donc, de membres de la communauté évangélique du Canada. C'est quoi cette communauté-là? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu c'est qui ces gens-là et pourquoi c'est un problématique qu'ils aient donné 420 000 $ à l'université?
Ben, en fait, ce qu'on appelle communauté évangélique, il faudrait parler des églises évangéliques au pluriel. C'est essentiellement donc les pentecôtistes, les baptistes, les charismatiques, qui ont une approche qu'on appelle fondamentaliste là, de la doctrine chrétienne, c'est-à-dire qu'ils se remettent à la Bible comme texte fondamental. Donc tout est interprété à la lumière des textes bibliques qu'on interprète de façon assez conventionnelle, assez conservatrice, textuelle de la Bible.
Est-ce qu'on peut dire que c'est un petit peu les intégristes du christianisme?
On peut parler d'une forme d'intégrisme dans ce cas-ci, oui. Les fondamentalistes, effectivement, s'en remettent à une pensée assez littérale des textes fondateurs.
Ils ne doivent pas être beaucoup pour la contraception, pour l'avortement, puis toutes ces choses-là. Là, ça ne doit pas être les plus progressistes sur Terre.
Absolument pas. Ce sont des églises très conservatrices, résolument anti-darwiniennes et anti-scientifiques. Là, c'est un retour à l'esprit missionnaire pour aller convertir les autres citoyens. C'est une réaction conservatrice au libéralisme des autres églises protestantes, comme l'église anglicane, par exemple.
OK. Donc, c'est pas les plus progressistes, loin de là. Alors, pourquoi l'université accepte de l'argent de ces gens-là qui font partie d'un mouvement qui est plutôt régressiste que progressiste?
Ben, ce que j'en comprends, c'est que la faculté de théologie avait fait face à une baisse de clientèle au niveau des étudiants. Et là, ils se sont dit, bon, il faut d'abord savoir que les églises évangéliques sont en développement actuellement, autant au Canada, aux États-Unis. Ben, aux États-Unis, oui, c'était des églises déjà assez fortes. Mm-hmm. En Amérique latine et au Canada, ce sont des églises en expansion. Ils prennent la place qui est laissée vacante par l'église anglicane et l'église catholique. Mm-hmm. Alors, il y a donc... la faculté semble avoir vu un marché de ce côté-là. Et comme les universités sont en manque de financement, ben là... on a développé des programmes pour aller chercher du financement dans des groupes qu'on appelle les communautés citoyennes. Et du côté des évangéliques, il semble qu'il y a des gens qui ont des moyens. Et ils apportent donc 400 000 $ à la faculté pour payer le salaire de professeur, là.
Ouais. Mais est-ce que le danger, c'est que ces gens-là, parce qu'ils donnent 420 000 $, qu'ils s'attendent en échange à ce qu'on fasse bien paraître leur idéologie et qu'on fasse un peu de l'endoctrinement, qu'on essaye de faire du marketing, finalement, de l'évangélisme? Est-ce que c'est ça la crainte?
Ben moi, ça me semble une dérive très probable. Écoutez, quand on lit l'objectif, là, je vous le lis, là, ce qui est rapporté le Devoir, et c'est des citations qui sortent des documents de la faculté, on dit que l'objectif principal de travailler à une actualisation de la théologie de la mission. Théologie de la mission, ça veut dire discipline qui développe une réflexion systématique sur l'activité missionnaire. Bon, et sa mise en œuvre en contexte québécois post-chrétien, il contribuera à former des missiologies, des praticiens et des communautés missionnaires aptes à faire face aux défis que comporte la proposition de l'Évangile dans le monde contemporain.
Boy. Donc, c'est pas de l'étude. OK, mais des missionnaires, là, Monsieur Baril, des missionnaires, là, c'est des gens qui vont quelque part dans une communauté, dans un pays, pour convaincre les gens, pour les convertir. Les missionnaires, c'est pas juste des gens.
Coin de la rue, là, on va pas nous envoyer des gens en Afrique. Moi, j'ai une église évangélique sur le coin de la rue ici à Montréal, là, au coin de la rue Saint-Joseph et Saint-Michel, et puis ils font du missionnariat sur le coin de la rue.
Ils vont aller faire du missionnariat à l'Université Laval. C'est parce que je comprends que vous ayez tiré la sonnette d'alarme.
C'est-à-dire que c'est sûr que c'est présenté comme étant une supposée étude du missionnarisme, là. Mais c'est clair que ils vont développer la pensée qui va servir à cette approche religieuse. Là. C'est ça qui est la fonction.
Mais moi, je pensais, naïvement peut-être, M. Barry, puis vous êtes quand même vice-président du mouvement laïque, donc j'imagine que vous pensez ça aussi. Je pensais qu'on vivait dans une société laïque au Québec.
Mais c'est-à-dire que la société, elle est effectivement assez déconfessionnalisée, là, elle est sécularisée. Les universités le sont tous, mais quand les universités ont adopté des chartes laïques dans les années 70, ben, ils ont conservé pour les facultés de théologie des liens organisationnels avec les archevêchés. Et ça, c'est comme je disais au départ, c'est un anachronisme, là. C'est quelque chose qui ne devrait plus exister. Puis là, la faculté ici continue sur cette même lancée, en élargissant donc de la théologie catholique, on passe à la théologie évangélique.
Oui. Mais moi, je t'avoue que ce que vous nous avez dit dès le début, là, que le doyen était nommé par l'archevêché, je suis un peu tombé en bas de la chaise, je n'étais pas au courant. Je ne savais pas.
C'est comme ça dans toutes les facultés de théologie. En fait, il reste Laval. À l'Université de Montréal, la faculté de théologie vient de laisser abandonner son lien diocésain.
Okay.
Donc, il ne relève plus de l'archevêché. Il reste Laval. Le Sherbrooke, là, je l'ignore. Peut-être encore le cas Sherbrooke également.
Mais c'est un peu
pas seulement
comme
le
si...
doyen, c'est ça. Les professeurs qui vont enseigner dans le secteur théologie de cette faculté doivent aussi avoir l'approbation de l'archevêché.
Oui, c'est ça. On continue un petit peu une sorte de mainmise. C'est un petit peu comme si dans les facultés, mettons, de HEC ou de MBA, des facultés d'administration des affaires, que c'était Bombardier ou Couche-Tard qui nommait le doyen de la faculté puis qui nommait les professeurs, qui approuvait les professeurs.
Exactement. Je pense que votre comparaison est exacte et elle est correcte. C'est aussi un peu, si le mouvement laïque québécois était riche et pouvait se permettre de financer des chaires, c'est comme si le mouvement laïque procédait à la nomination d'un directeur de recherche pour une chaire sur la laïcité. Ça serait pas accepté, ça, hein?
Non. Puis c'est comme si dans les facultés de médecine, les big pharma, là, ce qu'on appelle les big pharma, les grandes compagnies pharmaceutiques internationales, que ce soit Pfizer ou McKesson ou autres, nommaient le doyen de la faculté de médecine.
Oui.
Ben, on dirait, voyons donc, c'est un conflit d'intérêts, c'est ou en tout cas apparence, je dis bien apparence de conflit d'intérêts, on trouverait ça assez bizarre.
En fait, sur la logique développée par la faculté de théologie, il y a l'ex-doyen de la faculté des sciences et d'éducation, Claude Timard, qui donnait l'exemple suivant. Il disait, en fait, sur cette même logique, pourquoi pas financer une chaire sur l'islam qui serait payée par les frères musulmans ou par le Qatar ou l'Arabie saoudite.
C'est exactement
la même situation qu'on a actuellement avec...
Si c'était le cas, vous le dénonceriez aussi?
Ben absolument. Oui. Nous, on pense que les universités ont une mission de développer de la science et de développer, de faire de l'analyse objective, rationnelle des faits sociaux. La religion tombe, peut être analysée sous cet angle scientifique, mais pas si on se situe à l'intérieur d'une doctrine qui est déjà déterminée par en dehors de la science. Vous voyez que ça n'a pas de sens.
C'est un
oxymore, là.
Puis c'est ça ce que disait Claude Simard, donc vous l'avez dit, le professeur retraité de la Faculté des sciences et de l'éducation, lui, carrément, il dit que l'université n'a absolument pas à soutenir l'entreprise d'endoctrinement qu'est l'activité missionnaire des églises. Lui, il parle carrément d'endoctrinement, donc la crainte est vraiment réelle qu'on fasse de la propagande religieuse qui serait attachée à ce 420 000 $-là. Ben moi, je trouve ça inquiétant, personnellement.
On va former des intervenants là dans le secteur des églises évangéliques, le pentecôtistes, baptistes et compagnie. C'est ce qui est visé. Quand on dit, je cherche l'expression, des praticiens des communautés missionnaires, ce sont des gens qui interviennent dans ces milieux-là et dans leurs écoles privées. C'est ce qu'on vise à faire. Là. Parce que il y a un développement démographique de ce côté-là. Alors, c'est là qu'on en est rendu dans les universités, malheureusement.
Ouais.
Et ça montre aussi le sous-financement, là, au départ. Que les universités soient réduites à liqueter chez des groupes religieux et des groupes religieux d'orientation fondamentaliste, c'est une aberration pour la science.
C'est ça. Ben, c'est comme vous le dites, c'est pas juste le fait que ce soit un groupe religieux, c'est que ce soit un groupe religieux fondamentaliste, là, c'est des gens qui respectent ce qu'ils s'imaginent être la règle, qu'ils la respectent à la lettre, et c'est pas des gens qui, en tout cas, quant à moi, c'est pas des gens qui vivent au même siècle que nous, là.
Sous l'un des aspects, on peut en douter.
Ouais. Bon, ben, merci beaucoup d'être venu nous parler de ça, Monsieur Baril, et puis au mouvement laïque, vous êtes en général assez prompt à réagir quand il y a des dérapages ou des situations comme ça qui menacent là, cette déconfessionnalisation ou cette laïcité qu'on veut avoir au Québec. Puis ça, c'en est un cas, en tout cas, assez probant. Alors, c'est à lire.
Il y a encore beaucoup d'ouvrages à faire.
Oui, c'est ça. Donc, ce texte à lire dans Le Devoir, donc, de la semaine dernière, « La religion investit l'université », c'est le cas de le dire. C'est pas juste un investissement dans l'université, mais vraiment, ils s'investissent. Puis, ben, je sais pas toi, Mathieu, mais moi, quand je vois ce genre de choses-là, je capote.
Ben, en fait, c'est la surprise du départ d'apprendre que justement ce programme de théologie là. Mais en fait, je suis allé sur le site en fait parce que moi je m'intéresse beaucoup aux religions en général, pas nécessairement pour devenir prêtre, là. C'est pas ça mon objectif.
Non, un intérêt tout à fait mais sociologique ou autre là.
Exactement, ouais. Juste la compréhension des phénomènes religieux et le département de théologie de l'Université Laval, quand on va sur le site du programme pour s'inscrire en tant qu'étudiant, faut comprendre que les études en théologie, c'est pas des études pour comprendre les religions, c'est vraiment, comme disait M. Barry, devenir en fait, parce que la liste des emplois qui peuvent être occupés après les études pour les études en théologie, c'est vraiment animateur de pastoral, accompagnateur spirituel, prêtre ou religieux, donc, intervenant communautaire, donc vraiment, c'est pas laïque comme analyse de la religion. C'est vraiment une vision chrétienne de la religion, mais d'avoir en plus de ça des chaires commanditées par des groupes. Et les groupes qui ont le plus avantage à commanditer des chaires comme ça et peut-être influencer les étudiants, c'est probablement les groupes les plus intégrés, justement. C'est eux qui cherchent à aller chercher, à les convaincre le plus, ces gens-là.
Ben tout à fait. Puis quand on dit que c'est une chaire, comme tu dis, pour le missionnariat, pour étudier le missionnariat, ça m'étonnerait que la conclusion qui en sorte, ce soit le missionnariat n'est pas une bonne idée. C'est bizarre, hein?
Mais on dit, du côté de l'Université Laval, on se défend en disant qu'il y a un coupe-feu, comme ils appellent.
Ben
là,
oui,
mais
c'est ça, un mur.
Mais en même temps, c'est vrai qu'une communauté qui commandite une chaire et qui emploie, en gros, qui paie la moitié du salaire d'un enseignant, j'ai du mal à voir cet enseignant-là sélectionné être totalement contre ce que ces gens-là disent. Je pense que c'est sûr qu'il va y avoir une certaine influence.
Ben, en tout cas, il y a apparence, et comme je le disais comme exemple, si Bombardier nommait le doyen de la faculté d'administration des affaires à l'Université Laval, ou si Couchetard, Alain Bouchard de Couchetard, était la tête dirigeante qui nommait le doyen des HEC, des hautes études commerciales à Montréal, je pense qu'il y aurait beaucoup de gens qui serait choqué, et avec raison.
Avec raison, mais historiquement, il y a quelque chose de compréhensible justement avec le fait que la prêtrise, les études pour devenir prêtre, ça se passait à l'université. Je comprends au niveau historique que ça soit passé comme ça dans le temps, parce que la séparation entre l'État et l'Église était pratiquement inexistante, mais je pensais qu'on s'était affranchi de ça, mais ça, il reste des vestiges
oui,
du
fait,
passé
comme
ça, et effectivement, d'avoir un département de théologie, on voit qu'il y a des universités qui s'en débarrassent et sans nécessairement militer pour qu'on se débarrasse d'un département de théologie, former des prêtres, effectivement, c'est un peu bizarre que ça se passe dans une université qui, normalement, devrait être laïque. Là, au Québec, je pensais qu'on était rendu là.
Exactement. En tout cas, c'était bien intéressant de parler avec Daniel Baril, donc du mouvement laïque. Surtout que ben, les laïcs ou les, on les entend pas souvent, on les entend pas beaucoup. Mais en tout cas, on va les entendre à Sophie sans compromis parce que ce sont des voix qui sont importantes pour moi. Je vous rappelle qu'en tout temps, vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous appeler. Alors pour me joindre, moi personnellement, c'est sophie.durocher@blvd.fm. Pour nous rejoindre collectivement, ben, c'est studio@blvd.fm. Et si vous avez le goût de nous jaser, ben, c'est toujours au 88-780-1021. On va faire une petite pause, mon beau Mathieu.
Tout à fait. Vous écoutez Sophie sans compromis à l'antenne de Boulevard 102.1.